Aventure du petit antiquaire. Mon ami le docteur était un profond antiquaire. Vieux garçon fatigué, usé, toujours fouillant dans des ruines. Il aimait un édifice comme vous autres, anglais, aimait un fromage. Plus il le trouvait vermoulu, émietté, plus il était à son goût. La carcasse d'un vieux temple ignoré, les murailles d'un amphithéâtre renversé, lui inspiraient les transports de joie, et ses vieilles rognures de l'antiquité avaient pour lui plus de charme que tout l'éclat de nos palais modernes. C'était aussi un grand amateur de médailles, et il venait d'acquérir une nouvelle branche de richesse qui lui tournait presque la tête. Ainsi, il avait recueilli quelques consulaires romains, la moitié d'un as romain, et deux pièces de monnaie carthaginoise qui avaient appartenu, sans doute, aux soldats d'Hannibal, puisqu'il les avait trouvées au lieu même où ce guerrier avait campé sur l'Apennin. Il avait de plus une médaille samnite, frappée après la guerre sociale, et une Philistis, reine qui n'exista jamais. Mais il s'applaudissait surtout d'une médaille qu'un initié à ses mystères pourrait seul décrire. Elle portait d'un côté une croix, de l'autre un pégase. Et le petit homme, dans ses savants raisonnements, la produisait comme un monument historique propre à jeter du jour sur les progrès du christianisme. Il portait avec lui toutes ses médailles dans une bourse de cuir, soigneusement cachée dans une poche de sa petite culotte noire. La dernière lubie qu'il s'était mise en tête était de rechercher les antiques cités des Pélages, qu'on dit exister aujourd'hui parmi les montagnes des Abruzzes, mais qu'enveloppe toujours une singulière obscurité. Il avait fait à ce sujet plusieurs découvertes, et réuni un grand nombre de notes et de remarques précieuses dans un gros manuscrit qu'il portait toujours avec lui, soit pour le citer fréquemment, soit de peur que ces précieux documents ne tombassent dans les mains de ses frères les antiquaires. Il avait donc, à l'extrémité de son habit, une large poche où il portait cet inestimable volume, qui battait sur ses jambes tant qu'il marchait. Traînant ainsi les pesantes dépouilles de l'Antiquité, ce bon petit homme, pendant un séjour qu'il fit à Telacine, gravit un jour les roches escarpées qui dominent la ville pour aller visiter le château de Théodoric. Il était à fouiller dans les ruines vers le coucher du soleil, enseveli dans ses réflexions, l'esprit égaré sans doute au milieu des Goths et des Romains, quand il entendit un bruit de pas derrière lui. Il se retourne et voit 5 ou 6 jeunes gens, d'un air dur et déterminé, couverts de vêtements bizarres, demi-paysans, demi-chasseurs, des carabines à la main, et dont l'extérieur et l'équipage ne lui permettaient pas de douter dans quelle compagnie il était tombé. Le docteur était un petit homme faible, de pauvre apparence, de bourse plus pauvre encore. Il n'avait guère d'or ou d'argent à perdre, mais il avait ses précieuses médailles dans la poche de sa culotte. Il avait en outre quelques objets de prix, une vieille montre en argent, de l'épaisseur d'un navet, avec des chiffres assez gros pour le cadran d'une horloge, et, au bout d'une chaîne d'acier, un trousseau de cachets qui tombait jusqu'à ses genoux. C'étaient des reliques de famille, toutes d'un grand prix à ses yeux. Il avait encore une bague à cacher, un véritable travail antique, qui couvrait la moitié de ses phalanges. C'était une Vénus que le vieil homme adorait presque avec l'ardeur d'un voluptueux. Mais ce qu'il chérissait le plus, c'était son recueil de recherches sur les villes pélagiennes. Il eût volontiers donné tout l'argent qui était dans sa poche pour voir son livre en sûreté au fond de son coffre à Terracine. Toutefois, il s'arma de courage, au moins d'autant de courage qu'il put trouver, car, à son meilleur moment, ce n'était qu'un petit homme bien chétif. Il souhaita donc au chasseur un buon giorno, et lui rendirent son salut, frappant amicalement sur l'épaule du vieil homme, qui sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Ils entrèrent en conversation, et marchèrent quelque temps ensemble sur les hauteurs, le docteur les souhaitant tous au fond du cratère du Vésume. Enfin, arrivé à une petite auberge sur la montagne, ils lui proposèrent d'entrer et de boire un verre de vin avec eux. Le docteur y consentit, quoiqu'il eût autant aimé être invité à boire de la ciguë. Un homme de la troupe resta en sentinelle à la porte. Les autres entrèrent fièrement dans la maison, mirent leur fusil dans un coin de la chambre, et chacun, tirant de sa ceinture un pistolet ou un stylet, le déposa sur la table. Ils approchèrent du banc, demandèrent à grands cris du vin, et, buvant à la santé du docteur comme s'il eût été une vieille connaissance, le pressèrent de s'asseoir et de s'égayer. Le bonhomme s'y prêta avec des grimaces forcées, mais en frissonnant de crainte, péniblement assis sur le bord de sa chaise, jetant un regard timide sur les canons noircis des pistolets, sur les stylets nus et brillants, et sentant son cœur brûler à chaque goutte de liqueur. Cependant, ses nouveaux compagnons n'épargnaient pas la bouteille, et faisaient sauter les bouchons. Ils chantaient, ils riaient, contaient d'excellentes histoires de leur brigandage et de leur combat, mêlées à des plaisanteries grossières. Et le petit docteur tâchait de rire à tous leurs bons mots de coupe-jarret, quoiqu'il se sentît près de tomber en défaillance. Ils étaient, disait-il, des jeunes gens des villages qu'une bizarre fantaisie de jeunesse avait depuis peu fait entrer dans cette carrière. Ils parlaient de leurs expéditions meurtrières comme un chasseur parle de ses plaisirs. Fusiller un voyageur leur semblait aussi naturel que tirer un lièvre. Ils parlaient avec enthousiasme de leur vie glorieuse et vagabonde, libres comme des oiseaux, ici aujourd'hui, ailleurs demain. Parcourant les forêts, gravissant les rocs, pillant les vallées, le monde était à eux partout où ils pouvaient le prendre. Des bourses pleines, de joyeux compagnons, de jolies femmes. Le petit antiquaire se sentait échauffé par leurs discours et par leur vin, car il ne ménageait pas les rasades. Il oubliait à demi ses terreurs, sa bague, sa montre de famille. Le traité même des villes des pélages qui étaient achevés sous lui fit place un instant dans son esprit au tableau brillant qu'il lui présentait. Il en vint bientôt, comme il le disait lui-même, à ne plus s'étonner du goût que les habitants des montagnes avaient pour le brigandage, car il sentait à cet instant que s'il eût été un jeune homme et un homme vigoureux, et qu'il n'eût pas eu à redouter les galères dans la plaine, il aurait senti quelque velléité de se faire recevoir bandit. Enfin, l'heure de se séparer arriva. Le docteur fut tout à coup rappelé à sa raison, à ses terreurs, en voyant les brigands reprendre leurs armes. Il trembla encore pour ses trésors, et surtout pour son savant traité. Cependant, il s'efforça de paraître froid et tranquille, tira de sa vaste poche une longue et mince bourse de cuir en mauvais état, au fond de laquelle sa main tremblante fit sonner quelque espèce. Le chef de la troupe observait ses mouvements et, mettant la main sur l'épaule de l'antiquaire, « Halte là, signor dottore, » dit-il. « Nous avons bu ensemble comme amis et camarades. Quittons-nous de même. Nous vous connaissons. Nous savons qui vous êtes, ce que vous êtes, aussi bien que tous ceux qui dorment à Terracine ou qui mettent le pied sur la route. Vous êtes un Richard, mais vous portez toute votre fortune dans votre tête. Nous ne pouvons ni y aller prendre. » Et nous ne saurions qu'en faire si nous l'avions. Je vois que vous êtes inquiet sur votre bague. Soyez tranquille, elle ne vaut pas la peine d'être prise. Vous la prenez pour un antique, mais ce n'est qu'une contrefaçon, un attrape-nigaud. Ici, la colère de l'antiquaire s'alluma. Le docteur se laissa emporter à son zèle pour la réputation de sa bague. Ciel et terre, sa Vénus, une pièce fausse, eussent-ils calomnié la femme de son cœur, sa colère n'eût pas pris feu comme pour la défense de sa pierre. « Bon, bon !» interrompit le brigand. « Nous n'avons pas le temps de disputer là-dessus. Pensez-en ce qu'il vous plaira. Allons, vous êtes un brave petit signore. Encore un verre de vin et nous payons le compte. Pas de cérémonie. Vous ne paierez rien. Nous sommes chez nous. Je le veux. Allons, et maintenant retournez à Terracine car il se fait tard. Buon viaggio. Et prenez garde à vous quand vous parcourez les montagnes. Vous pourriez ne pas toujours tomber en aussi bonne compagnie. » Ils prirent leurs fusils, sautèrent lestement sur les rochers, et le petit docteur retourna clopin-clopant à Terracine, content que les voleurs lui eussent laissé sa montre, ses médailles et son traité, mais indigné qu'ils eussent déclaré sa Vénus fausse.